Le dimanche 13 août 1961, toute l'Amérique avait les yeux fixés sur la capitale des États-Unis où se disputait un des plus grands matchs de baseball de l'année. Ce même jour, sans aucun avertissement, les communistes de l'Allemagne de l'Est fermèrent la frontière entre les deux Berlins. Je mentionne ce fait uniquement pour montrer que nous avons affaire à des gens pas très sûrs.
Ah, ils vont se multiplier!
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit, la palme d'or.
Uno, all, two, vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
Uno, all, two, vous. Now, go away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Comment raconter des histoires dans la grande histoire? Un rideau s'ouvre, un mur tombe, et tant de destins, tant de récits dramatiques, politiques, intimes à filmer. Comment le cinéma allemand les a-t-il scénarisés, mis en scène, et peut-être un jour oubliés? C'est la question du jour en ce 9 novembre 2019. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Deux pays, deux Allemagnes, deux cinématographies, réunies désormais en une seule. Bonjour Pierre Gras.
Bonjour.
Grand spécialiste du cinéma allemand, auquel vous avez consacré un ouvrage, Goodbye Fassbinder, le cinéma allemand, depuis la réunification. Avec vous, nous parcourrons ce cinéma secoué par l'histoire, les anciens, Wenders, Fassbinder justement, Schlendorf ou Herzog, mais surtout avec cette nouvelle génération, nouvelle vague allemande et notamment son chef de file Christian Petzold, l'auteur ultra talentueux entre autres de Barbara. Nous l'avons rencontré cette semaine à Berlin. Et pour compléter cette étude, un journaliste allemand à Paris, bonjour Markus Rotte.
Bonjour.
Avec vous deux, nous n'oublierons pas non plus le cinéma de l'Allemagne de l'Est, il a bien existé, qu'est-il devenu ? Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi de cinéma, la crise grecque, la belle époque, la Géorgie, l'audition et ce grand film d'animation, J'ai perdu mon corps. C'est parti, Es geht los.
Pas mal, monsieur Caution. Lemmy Caution. Vous avez une nouvelle bonne?
Moi, j'ai une bonne nouvelle.
Vous avez battu le record de la Belle au Bois dormant.
Une chose, vieux. Ça reste Konrad Witkowski.
Ah oui. Kommt selten. Kommt selten. Deuxième bureau. Die mille excuses. Das alliierte Hauptquartier hat ihre Akte verloren. Mais j'ai trouvé votre nom dans les papiers de mon père.
Vous vous rendez compte? 30 ans.
L'âge de raison, mon cher. On a vu pire. C'est long et c'est court.
Dans mon verre de gris. Poison Ivy Kid. C'est vrai. Le mur de Berlin, c'est long et c'est court. C'est quand même le triomphe de Marx.
Comment ça?
Quand une idée pénètre dans les masses, elle devient une force matérielle.
On peut voir ça comme ça. De toute façon... C'est fini tout ça.
Quelques semaines après la chute du mur, dès 1990, Jean-Luc Godard filme l'Allemagne de l'Est et son personnage, Lemmy Caution, Eddie Constantine, l'espion, qu'il plonge dans cette Alphaville, Berlin, Allemagne 9-0. La grande vague des cinéastes allemands, nés juste après la guerre en 1945, n'était pas à Berlin ce jour-là. Le 9 novembre 1989, Schlendorf était dans un avion pour New York, Wenders en tournage en Australie, Herzog en Amérique et Fassbinder, lui, n'était plus là, mort en 1982. Les trois...
Et Von Trotta à Rome.
Pardon, et Von Trotta, incroyable. Donc ces chefs de file ont eu à dealer avec une autre histoire, les lendemains de la guerre, Pierre Gras, et reconstruire une histoire du cinéma allemand détruit par le nazisme.
Oui, effectivement, le cinéma allemand après-guerre, bien sûr, bon, ses installations étaient détruites, il était en très mauvais état, discrédité, bien sûr, par le nazisme. Alors, dans les années 50, il y avait quasiment, c'était ce qu'on appelait le cinéma de papa en Allemagne. Ouais. Et donc, les jeunes de la toute première nouvelle vague allemande, Kluge et Reitz, l'auteur des Heimat, avaient publié un manifeste au début des années 60, dont le point d'orgue était la formule finale, le cinéma de papa est mort, il faut construire un nouveau cinéma. Et c'est eux qui ont ouvert la voie de manière très talentueuse à Fassbinder, à Wenders, à Herzog, qui sont tous les cinéastes que la France a accueillis et qui ont aussi, à ce moment-là, ont été reconnus dans leur propre pays.
Schlondorff dit un truc fou, il dit « Je me suis aperçu que le nouveau cinéma allemand, entre 65 et 89, n'avait jamais parlé de la division de l'Allemagne, la division du pays, le mur gros comme une poutre dans l'œil. » On le voyait pas. C'est vrai, Marcus Rotteux, il y a pas d'évocation de ça dans le cinéma de Schlondorff, par exemple.
Absolument, mais c'est très étrange parce qu'en fait, tous ces cinéastes sont quand même hantés par les règlements avec le passé.
Oui.
Alors, le présent qui fascine le monde entier, cette séparation d'un pays qui a une culture, une langue, mais qui a bientôt avoir deux cultures, parce que si on grandit de l'autre côté du mur, on va acquérir une autre culture. Ce contraste-là n'intéresse pas les cinéastes de l'Ouest.
Et Pierre Gras, d'ailleurs, dans Les Ailes du Désir, le mur est filmé, mais il n'est pas évoqué.
Alors, on voit le No Man's Land.
Il est là comme décor, mais.
Alors, ce qui est peut-être un peu plus frappant, c'est qu'à un moment, l'ange Bruno Ganz passe du côté Allemagne de l'Est, mais il n'entend pas les voix aussi clairement, aussi bien. Il entend des bribes, alors qu'il entend parfaitement les consciences de l'Ouest. Non, mais je crois qu'en fait, pour les cinéastes d'Allemagne de l'Ouest, c'était un tabou difficile. Comment représenter justement l'Est, une population dont on était coupé? Et ensuite, il faut se souvenir que dans les actualités, dans la vie politique, les deux côtés étaient soumis à des propagandes absolument intensives. C'est-à-dire, à l'Est, on dénonçait les capitalistes qui étaient tous d'anciens nazis, et à l'Ouest, on dénonçait effectivement la police politique. Donc, ils voulaient échapper aussi à un aspect propagandiste, et donc finalement, ils s'auto-censuraient.
Justement, je vais vous faire écouter un son de Wenders qui, pour Les Ailes du Désir, a dû convaincre le ministre du cinéma de Berlin-Est à propos de ce mur.
Je suis arrivé dans son bureau. Je lui ai dit, maintenant j'ai un film que je vais faire à Berlin. Merci de votre invitation. C'est maintenant ou jamais que vous pouvez m'aider. J'ai eu cette histoire d'ange. J'ai pas de scénario. Je n'ai que certaines idées. Je vais tourner ça sans scénario. Et déjà, il n'était pas convaincu. Qu'il n'y avait pas de scénario, ça ne lui a pas plu. C'était pas son idée de faire du cinéma. Et il m'a donc demandé, alors bon, si vous n'avez pas de scénario, tant pis, c'est quoi l'histoire? Et je lui ai raconté l'histoire des anges gardiens. Et sa mine devenait de plus en plus sincère. Ça ne lui plaisait pas du tout. Ils sont invisibles, il disait. Ils peuvent aller où ils veulent. J'ai dit oui. Ils peuvent traverser les murs. J'ai dit oui, évidemment, tous les murs. Alors il a été vraiment sérieux. Alors ils peuvent traverser le mur. J'ai dit justement, c'est pour ça que je suis ici, parce que je voudrais évidemment que les anges traversent le mur, et je voudrais en effet tourner beaucoup entre les deux murs et surtout sur la porte Brandenburgeois. Et il m'a dit, bon, je peux rien pour vous. Parce que le mur, vous savez, il n'existe pas. Alors les anges ne peuvent pas le traverser. Il n'existe pas.
C'est fou ça, Pierre Gras. Mais notamment, Wenders, il a quand même donné conscience au monde entier. Il a montré cette ville, il a montré le mur. C'est très important, Marcus Rotteux.
Absolument, mais la scène qu'on retient toujours, je trouve, dans ce film, c'est Kurt Bois, cet acteur allemand qui a... C'est une légende, qui est assis dans son fauteuil sur la Potsdamer Platz. Il dit, c'est où le centre de Berlin? C'est où la Potsdamer Platz? Parce qu'on est au cœur d'une ville qui est déchirée, qui est complètement martyrisée. Et il est quand même au cœur de cette ville où, dans les années 20, le cœur battait fort. Enfin, c'était presque la capitale de l'Europe en termes de culture, de contraste, d'affrontement politique. Et là, il est dans un vide. Et ce vide-là, ils l'ont filmé, les cinéastes de l'Ouest.
Oui.
Le vide
oui.
et cette désarroi. Mais ils se sont pas confrontés à la vie de l'autre côté.
Moi, je me rappelle de Roberto Benigni à la Berlinale qui était « Tout le monde part de l'Est et de l'Est ». Où est le sud? C'est vrai qu'il y a que deux points cardinaux à Berlin, Pierre Gras.
Deux points cardinaux.
Bah oui, c'est l'Est ou l'Ouest. À chaque fois, encore maintenant, on se demande.
Oui, on se demande si on est à l'Est ou à l'Ouest.
Il y a une cinéaste de cette époque-là aussi, c'est Margaret von Trotta, qui a filmé Les Années du Mur en 95. Premier film à évoquer les deux Allemagnes qui commençaient en 61. Elle dit qu'elle a fait le film trop tôt ou trop tard. le public voulait passer à autre chose.
Alors oui, c'est vrai que c'est pour le public allemand, filmer trop tôt le mur et la RDA, c'était quand même assez difficile. Alors, tout de suite après la chute du mur, il y a eu quelques films, alors notamment un film qu'on n'a pas vu en France, mais qui est un film grotesque en fait, un massacre à la tronçonneuse allemand, de Christoph Schlingensief, qui était un metteur en scène de théâtre et un cinéaste très très provocant. Et donc lui a imaginé, je crois tout de suite en 91, une famille très gentille d'Allemagne de l'Est qui veut découvrir les joies de l'Ouest. Et là, pas de chance, il tombe sur des maniaques qui vont les arrêter, les enchaîner, les transformer en saucisses. Donc ça, c'était vraiment la provocation. Il y a eu quelques petites comédies anodines, mais en fait, il a fallu attendre quasiment 10 ans pour que le public allemand et les cinéastes trouvent la manière de parler de la RDA.
Avant d'écouter Christian Petzold, je voudrais qu'on fasse quand même un arrêt sur les films de l'Est. Mmh. Alors, ces films-là qui se tournaient, c'était la DEFA, c'est ça?
Voilà, le studio de fiction, c'était la DEFA.
Et les films, c'était quoi? C'était des films de guerre, des romans?
Alors, il y avait tout un petit mélange. Il y avait des films de divertissement. Tous les totalitaristes font toujours des films de divertissement. Parce qu'ils peuvent pas abrutir tout le monde simplement dans les salles de films de propagande.
Ouais.
Alors, il y avait des films qui étaient plus propagandistes, mais il y avait aussi des westerns, où les Indiens, bien sûr, étaient les gentils qui luttaient contre les cow-boys capitalistes. Il y avait des films de science-fiction. Et il y avait des films de fiction très, très passionnants, quand même, de grands cinéastes, et notamment qui ont profité du début des années 60, qui étaient les années du dégel dans tous les pays communistes, pour faire des films très novateurs, très engagés, et qui, bien sûr, ont été censurés. C'est ce qu'on appelle la période des films lapins, avec un premier film avec une femme très courageuse qui dont le titre du film c'est Je suis le lapin en fait, parce que la femme dit je suis un lapin qui veut se défendre et en face de moi il y a un serpent qui est la bureaucratie des machos. C'est des films très féministes, hein. Et le serpent veut m'avaler et moi je suis le lapin mais je vais me défendre quand même. Et donc il y a eu toute une série de films à cette époque-là, notamment aussi de Jürgen Bötscher qui était un cinéaste et un peintre, et ces films-là ont été aussi, comme pour le dégel d'ailleurs en URSS, ont été violemment attaqués par les dirigeants du Parti communiste, qui ont dit qu'il faut se débarrasser de tous ces films lapins. Donc il y a une douzaine c'est de drôle, films qui ont été interdits, le montage a été arrêté, et on les a redécouverts après la chute du mur, ils sont tous très passionnants.
Vous évoquez ces femmes, c'est vrai, ces femmes fortes dans le cinéma de l'Est, ça c'est un truc à garder Petzold par exemple, puisque ça, à travers son interprète principal Nina Hoss, c'est des femmes responsables, puissantes, etc. Et Petzold, on va en dire un mot avant de l'écouter. Je le disais en commençant, c'est le chef de file de cette nouvelle vague. Ils n'aiment pas trop ce terme tous, mais c'est une nouvelle vague, c'est des gens qui ont explosé dans les années 2000.
Oui, eux ont commencé dans les années 90, mais on a commencé à les connaître en France et dans les festivals à partir des années 2000. À partir d'un premier film de Christian Petzold, c'est Contrôle d'identité, qui a été montré à Cannes dans ces années-là. Et ensuite, on a vu apparaître aussi Angela Chanelec, qui est une femme qui a un cinéma très très singulier, qui a montré un film qui a eu l'Ours d'argent à Berlin cette année. Et donc, après eux, on a vu aussi des plus jeunes, Christopher Reusler, Benjamin Eisenberg. Et donc, tout ceci forme pour nous, Français, voilà, une nouvelle vague allemande, dans laquelle on voit naître quand même beaucoup de talents. Il y a des plus jeunes qui arrivent chaque année. Les écoles allemandes sont très dynamiques. Et les étudiants allemands de cinéma se lancent dans des genres de films très variés, mais souvent très intelligents.
Oui, Marcus.
Caractéristique pour résumer brièvement. On dit nouvelle vague allemande, Berliner Schule pour les Allemands, parce qu'ils sont souvent issus de l'école de cinéma de Berlin, qui est très engagée politiquement, contrairement à une école de cinéma de Munich où il y avait plus de production de comédie. Et on peut peut-être revenir après
l'interview. On va écouter Christian Petzold, qui est absolument passionnant, donc rencontré à Berlin cette semaine, précédé d'un extrait, pardon, c'est en français pour que vous puissiez comprendre, un extrait de Barbara, cette femme qui est chirurgien, médecin à l'Est. On n'en dit pas plus pour que les gens découvrent le film. Christian Petzold, donc, traduit et interprété par Cornelia Jaeser.
C'est la nouvelle petite copine de garde.
Elle veut sans doute passer à l'Ouest.
Gerd dit qu'il est fou amoureux.
Parce qu'elle ne peut pas le suivre.
Barbara. Tu
sais, je peux aussi venir vers toi. Je pourrais vivre ici avec toi.
Comment ici?
Oui, ici. Ce serait possible, on dit que certains l'ont déjà fait.
Qui donc?
On s'en moque. Je peux être heureux ici avec toi. Ils m'accueilleraient à bras ouverts.
Mais ça va pas. Personne ne peut être heureux ici.
Guten Tag, Christian.
Guten Tag.
Le mur a été érigé le 30 août 1961. Vous aviez 11 mois. Et dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989, vous aviez 29 ans. C'est une grande partie de votre vie, finalement, ce mur.
Oui,
mes parents étaient des réfugiés de la RDA. Et enfant, je ne me suis pas rendu compte que le mur existe. Mais à l'âge de 7 ou 8 ans, mes parents ont commencé, au lieu d'aller en Espagne ou en France, de voyager seulement en RDA. Et c'était des vacances fantomatiques dans un pays étranger où on parlait ma langue.
C'est-à-dire?
C'était un pays semblable, mais très différent, presque surréaliste. Et mes parents étaient chez eux, et en même temps, c'était des étrangers. Et ce pays était tellement allemand, la RDA, et la République fédérale, en revanche, était tellement américanisée que c'était comme un voyage dans le passé, dans un musée fantomatique de l'histoire allemande.
Vous étiez où quand le mur est tombé? Vous vous rappelez? Vous étiez étudiant en cinéma, je crois.
Oui, j'étais étudiant à l'école de cinéma et ce soir-là, de la chute du mur, on l'a regardé à la télévision et tout de suite on a couru à la Bornholmerstraße, à la frontière, ma copine et moi. Ma copine est turque. Et donc on est allé à la Bornholmerstraße et des citoyens de la RDA venaient vers nous et c'était émouvant. Et ma femme était émue par mon émotion et on a embrassé des personnes et ensuite ce soir-là nous étions invités à une fête chez une camarade d'école et tous on était sur le balcon et on voyait des quantités de gens venir de l'est vers l'ouest et regarder la ville comme un musée et nous étions sur le balcon comme les pièces d'exposition. Et ma femme, qui est très hospitalière, comme on est souvent en Turquie, elle a fait signe à quelques jeunes de monter et participer à notre fête. Et puis ils sont venus et trouvaient le buffet fantastique. Et pendant 3-4 minutes, c'était très sympa. Et puis l'un a dit à ma femme, c'est chouette chez vous et vous êtes bien sympa, mais il y a quand même beaucoup d'étrangers ici. Et puis ma femme a répondu, oui, ça sera peut-être pas si beau que ça.
Vous avez été heureux très peu de temps. Vous avez tout de suite vu l'avenir.
Il y a cette histoire que Walter Benjamin cite de la Révolution française lorsque les révolutionnaires, au moment où ils ont pris la Bastille et que la Révolution a vaincu, ont tiré sur les horloges pour arrêter le temps, parce qu'ils avaient besoin de temps, parce qu'ils avaient pensé « tout va trop vite, il ne faut pas seulement jouir du moment, mais réfléchir sur ce qui s'est passé ». Et ce temps de réflexion, on l'a pas eu en 89. On sait maintenant que les premiers néo-nazis avec leur réseau, le lendemain de la chute en Thuringe et en Saxe, ont élargi leur réseau, que les agents immobiliers se sont répartis entre eux les meilleurs terrains. Et on sait que les managers regardaient où on pouvait acheter des lieux de production à bon prix par la Treuhand ou d'autres institutions. Les gens qui avaient fait tomber le mur ou qui avaient traversé le mur ne savaient pas que dans leur dos, les structures travaillaient déjà. Et c'était quelque chose... Je crois qu'on le ressentait déjà à ce moment-là.
Ja, da ist was dran. Also diese Doppelbedeutung, da finde ich, da ist was dran. Ich wollte noch sagen,
je voulais ajouter que, très étrangement,
in diesem Moment, als die Mauer fiel,
lorsque le mur est tombé, j'étais à l'école de cinéma, on avait des caméras, des microphones, des moyens de production. On n'avait même pas l'idée de les prendre et d'aller filmer.
Und wir waren, ich war völlig,
et j'étais même complètement choquée qu'un étudiant, Bernard Mangiante, un Français qui étudiait chez nous, était le premier à prendre la caméra et aller chez les artistes de la RDA pour leur demander
«
Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous n'avez plus de langage, vous n'avez plus de public, vous n'avez même plus rien qui intéresserait quiconque, vous êtes complètement seul. » Puis Jean-Luc Godard est arrivé pour tourner un film à l'Est, Allemagne
9-0,
qui parle d'un espion joué par Eddie Constantine, qui n'avait plus de travail, qui traverse un pays solitaire, qui n'avait plus rien, la RDA. Et puis Jean-Luc Godard est venu à l'école pendant le tournage et il a fait une conférence sur la solitude d'un peuple. Il nous a parlé de son tournage.
Et
on avait besoin de ce regard de l'extérieur. On avait besoin de Mangiante, de Godard, de Peter Nestle, venu de la Suède, qui nous a dit « Prenez votre caméra et allez filmer, parce que ce qui se passe, c'est unique. » Un mur qui tombe, un peuple, peut-être en Chypre ou en Corée, on pourrait éventuellement tourner autre chose, mais un peuple qui parle la même langue, qui a les mêmes philosophes, Hegel et Marx, et qui a été séparé pendant 40 ans, et tout d'un coup, ils sont dans une solitude incroyable.
Il y a devant la maison de la radio à Paris un vrai bout de mur de Berlin. Est-ce que vous comprenez cette fétichisation ?
Oui, parce qu'il a disparu. On est content qu'en France, il y a encore un petit bout. On aurait dû laisser le mur pour comprendre ce que c'était. Il y a cette histoire que les chiens en voiture sentent quand la voiture passe un pont. Ils sentent le néant en dessous. Et je ressens la même chose à Berlin. Je passe sur le mur qui n'existe plus et je sens qu'il est toujours là. Et ça serait plus agréable si on pouvait toucher ce mur. Maintenant, je dois aller en France, à la maison de la radio, pour toucher le mur, quoi.
Il y a des vrais ingrédients dans, par rapport à l'Est, de films policiers. C'est-à-dire que c'est sur la suspicion, la peur, la tension. Et comme vous aimez les films noirs, les films policiers, je suppose que l'Est aussi peut apporter ça. Tout le monde surveille tout le monde. Donc il y a une vraie trame policière dans les sujets.
Oui, c'est vrai. Je trouve que la méfiance ou le fait qu'on ne sait pas qui est l'autre, qu'on doit se dissimuler, qu'il faut s'approcher avec prudence, ça a aussi un aspect érotique. En ce sens, qui est-ce la personne qui me fait face? Est-ce que c'est quelqu'un qui va me trahir? Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux avoir confiance? Cette confiance doit être construite, c'est du travail, c'est de la production, et on peut donc le filmer. On ne peut pas filmer des états, mais seulement le devenir. C'est seulement a posteriori que je sais que c'était un bon matériau, et je trouve les sujets, j'ai toujours la sensation que ce sont eux qui m'ont trouvé. Et avec la chute du mur et avec cette Allemagne sans identité, si étrange, qui n'a pas d'image d'elle-même, qui, après le national-socialisme, n'a pas osé de se reconstruire une mythologie. Des réalisateurs comme Fassbinder ou Wim Wenders ont dû inventer des images et des histoires. Et je suis dans cette tradition.
Est-ce que c'est difficile de faire un film sur l'Est après la vie des autres?
Au contraire.
Ja, weil ich fand die Position sehr einfach.
J'ai trouvé que cette position était un peu simple. Cette différence entre le bien et le mal était trop simple.
Das so ist die Welt nicht.
Le monde n'est pas comme ça.
In dem Guten die Bösen
dans le monde, le mal est dans le bien. Il y a une très belle phrase de Tchekhov qui dit
«
Dans l'art, tout doit être traité de façon égale. » Et il veut dire « égal, pas sans empathie, mais tout doit avoir la même valeur, le bien, le mal, la lâcheté et le courage. Et je crois que c'est important de le montrer. On ne peut pas parler si simplement de la RDA. »
Waouh, un cinéaste de la nouvelle vague, comment il parle de la vie des autres, Pierre Grin et Marcus? Parce que c'est vrai que c'est... Moi, je l'ai revu, hein, le film La vie des autres, on l'a beaucoup aimé, je ne renie pas ça. Mais c'est vrai que c'est presque... C'est pas caricatural, mais c'est vraiment... C'est le réalisateur qui a choisi sa vérité contre la vérité historique.
Oui, la vie des autres, c'est un film qui est simplificateur. Mais enfin, il a ému beaucoup, il a eu près d'un million de spectateurs en France, je crois 2 millions de spectateurs en Allemagne, alors que c'était le premier film du réalisateur, c'était même le premier long-métrage de la société de production. Il a gagné l'Oscar du film étranger. Donc c'est aussi un succès, et ça a ouvert la voie aussi, en un sens, à pas mal, à plusieurs films plus intéressants, et à la reconnaissance aussi des films de Christian Petzold.
Marcus, je vous ai vu aussi les sourcils quand Petzold évoquait le fait qu'il regrettait qu'il n'y ait plus de mur physique à Berlin, non?
Non, c'est un long débat, mais je trouve qu'il ne sera pas vraiment le débat au cœur d'une reconstruction d'une identité. Par le cinéma, je trouve que c'est ça qu'on peut discuter, comment le cinéma d'après la chute du mur peut contribuer à une nouvelle forme d'identification. Et là-dessus, Petzold a dit des choses magnifiques, que ce pays qu'il a, c'est pour ça que peut-être aussi plein de réalisateurs se sont pas frottés à l'histoire de l'Allemagne de l'Est, parce que c'était comme un pays étranger, comme Petzold le décrit, qui n'avait pas les mêmes saveurs, n'avait pas le même langage. Je ne parle pas de la langue, mais pas de langage. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait des expériences à l'Est qui peuvent finalement traduire dans un film qui parle de l'Allemagne Est-Ouest.
Cela dit, le film décrit la condition des artistes. On va juste écouter un extrait de La vie des autres. À la fin, quand l'ex-ministre et l'auteur se retrouvent au théâtre.
Mais c'est vrai ce qu'on m'a dit. Vous n'avez plus rien écrit depuis la chute du mur. Ce n'est pas bien. Après tout ce que notre pays investit en vous. Mais dans le fond, je vous comprends, Dreyman. Que peut-on écrire dans cette République fédérale? Il n'y a plus rien en quoi on puisse croire, rien contre lequel se rebeller, non. Elle était bien notre petite République. Beaucoup s'en rendent compte à présent.
Il y a une chose que je voudrais vous demander.
Allez-y, demandez-moi tout, Dreyman.
Pourquoi je n'ai pas été mis sur écoute? Vous avez fait surveiller tellement de gens, pourquoi pas moi?
Vous étiez surveillé en permanence. Nous savions tout sur vous.
Surveillé en permanence?
Espionné de partout. Le protocole complet.
Ça, c'était La vie des autres. Mais est-ce qu'on peut dire sinon que Goodbye Lénine, c'est un petit peu la première comédie à propos des deux Allemagnes?
Alors, c'est la première comédie qui soit arrivée, voilà, après, avec ce décalage d'une bonne dizaine d'années, pour que tout le monde prenne mieux conscience et accepte de rire. En fait, Goodbye Lénine, c'est un film qui a fait rire toute l'Allemagne. Mais les Allemands qui étaient avant à l'Ouest et les Allemands qui étaient avant à l'Est ne riaient pas au même moment. Hein, donc il restait un petit décalage, mais on a pu se moquer gentiment, voilà, des Allemands de l'Est. Les Allemands de l'Est du film pouvaient se moquer aussi gentiment de l'Allemagne de l'Ouest. Et donc le film introduisait aussi à travers beaucoup de vivacité, un ton de comédie et qui donnait une distance au sujet. Donc ça a été une réussite dans ce sens-là.
Marcus, cela dit, le film espère autre chose aussi. Le film est moins justement noir et blanc que La vie des autres. Le film,
Lénine.
Oui, ouais. Non,
Goodbye. Lénine. Oui, Goodbye Lénine. Moi, en le revoyant là maintenant, je l'apprécie beaucoup plus qu'à l'époque.
Bah moi aussi. Ouais.
C'est très étrange parce que c'est comme après un grand événement historique, on attend le roman, le film.
La pièce de théâtre qui résume cette expérience, on a dû attendre presque 15 ans pour voir émerger les premiers grands films sur ce sujet de la réunification. Et je pense que Lénine, malgré ses défauts et ses simplifications...
Goodbye Lénine,
oui, j'ai fait une...
Lénine avait des défauts aussi.
Ouais. D'ailleurs, il est ce plan magnifique où il arrive comme ça.
Oui.
En fait, c'est un écho au film de Godard, si on veut, parce que c'est une femme qui tombe dans le coma, qui voit pas du tout arriver la chute, et son fils construit l'Allemagne de l'Est idéalisée, et donc donne lieu à une nostalgie ou déjà une nostalgie en cours, c'est-à-dire 15 ans après, il y a ce phénomène d'un souvenir embelli d'un pays qui était une dictature, évidemment, mais on essaye de se raccrocher à quelque chose qui garde de la valeur, parce que tellement de biographies ont été brisées avec la chute du mur, et on n'a pas assez insisté là-dessus. Il y a des gens qui ont perdu tout, y compris l'estime de soi-même, parce qu'ils ont cru à quelque chose. Et cette figure de la mère de Daniel Brühl dans le film incarne ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a voulu un système socialiste à visage humain et croit jusqu'au bout, même quand ça n'existe plus. Et dans ce sens-là, ce film est beaucoup plus complexe que simplement une comédie qui est nostalgique, parce qu'il y a beaucoup plus d'ironie et de subtilité dans le film.
Christian Petzold l'évoquait dans l'entretien, ce film Inventaire avant fermeture, dernier été en RDA de Bernard Mangiante, qui était le premier français, filmeur de cette Allemagne de l'Est, qui a rencontré des gens là-bas, et notamment un jeune couple d'ouvriers qui croyaient, eux, pouvoir faire quelque chose là-bas. Je vous propose un extrait de ce film.
Je crois que contrairement à beaucoup de gens qu'on connaît et qui ont vécu avec nous ici, on s'est confronté aux choses. On a accepté d'apprendre et de vivre en fonction de ce qu'on apprenait. Et d'ailleurs, je dois dire que je suis triste de voir ce qui s'écroule ici. Cet idéal, je ne l'ai pas encore abandonné. Je crois encore un peu à cette idée du socialisme. Pour moi, ce n'est pas une affaire classée. Mais le socialisme n'est possible que si on peut le choisir librement. Là, on y arriverait peut-être.
C'était notre rêve. Nous sommes nés sous la formule « le socialisme, c'est le contraire du capitalisme ». En y réfléchissant et en voyant le capitalisme, on ne trouvait pas ça si affreux, en Suède par exemple. Et on se disait « on doit redéfinir ça ». Pour nous, le socialisme, c'est le contraire de l'égoïsme.
Pierre Gras, vous vouliez dire un mot aussi sur les grands documentaristes de l'Est.
Oui, le cinéma de l'Allemagne de l'Est avait une grande tradition documentaire. Oui. Et donc les documentaristes, d'ailleurs, ont continué à travailler, enfin après la chute du mur, ils poursuivent des carrières. Et ce qui j'étais frappé par ce que disait Christian Petzold tout à l'heure en disant que les étudiants de l'école de cinéma de l'Ouest n'étaient pas partis tourner tout de suite.
Oui.
Et en fait, par contre, un cinéaste documentariste qui travaillait à l'Est, mais auquel les autorités interdisaient en fait de monter et de terminer ses films, qui s'appelle Thomas Heisel, lui a intensivement filmé tout ce qui s'est passé à Berlin-Est, pendant les manifestations, avant la chute du mur. Et d'ailleurs, c'est frappant, il en a fait un film très très étonnant et important qui s'appelle Matériel, mais qu'il n'a fini qu'après Goodbye Lénine, qui n'a pu être accepté par les Allemands après aussi cette 10 années de recul. Et ce film-là montre vraiment le moment avant la chute du mur, la chute du mur et après la chute du mur. C'est très très étonnant. Et il va interviewer des personnalités ou des citoyens en leur disant « Mais qu'est-ce que ça va être la nouvelle Allemagne ?» Et personne ne sait ce que ça va être.
Il reste 30 secondes pour conclure, Marcus. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
30 secondes pour conclure, je voulais revenir, peut-être c'est hors propos, sur ce qu'on a écouté dans l'extrait sur la vie des autres, comment écrire, comment filmer après la chute du mur. Et c'est très intéressant parce que plein de auteurs, metteurs en scène étaient désemparés. Plus de résistance à l'État, plus de... Il y a la figure de Heiner Müller qui est pas de cinéma, mais dans le théâtre, qui avait des énormes problèmes pour écrire. Et je pense que ça explique que l'école documentaire de la DFAG a pu continuer à filmer le réel tel qu'il était, mais pour le traduire en fiction, c'était toute une autre histoire.
Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On se retrouve pour les sorties de la semaine après Pixies, Catfish, Kate.
L'Occident, c'est par là.
Hélas, oui, c'est par là. L'Occident. Allez, monsieur Grosje. Tchuss. Call me devil, call me friend, but call me blackjack cool again. I came all the way from Aberdeen to live among the go-betweens. Let me tell you about Catfish Kate in the time before when she's just Kate. Here in the mountains all alone before the time we call this home. Where is my angel falling? Put inside a favorite dish. A catfish grabbed her by the head and took her to his house instead. Where is my angel falling? Down at the river bottom. And will she get away? Where is my perfect blossom? Is she just playing? Who lives another day? Where they wrestled all the day and night, the morning show, the bloody sight. Kate all dressed in catfish clothes, his whiskers for her catfish robe, whiskers for her robe.
On se retrouve pour les sorties. Alors, on va commencer par le film de Nicolas Bedos. Ça s'appelle La Belle Époque. C'est son deuxième film. Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d'un genre nouveau, mélangeant artistes, artifices théâtraux et reconstitution historique. Cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l'époque de leur choix.
Oui, est-ce qu'on a vraiment envie de voir en ce moment ce cinéma de jeunes vieux? Parce que c'est quand même quelqu'un qui est poussé par la nostalgie permanente des années 70. Je trouve qu'elle s'y irait mieux à Papa Bedos, à Guy, qui est de ces années-là, qui pourrait, lui, cultiver cette nostalgie. Chez Nicolas Bedos, c'est un mélange très curieux, du coup, de cette, effectivement, nostalgie. Et puis, alors, de clichés incroyables sur l'époque moderne. Il y a Daniel Auteuil qui insulte son GPS. On a vu ça dans 25 films, déjà. C'est vraiment sidérant. Après, il y a les vulgaires mais épaisse sur l'époque. Enfin, on se demande vraiment dans cet entre-deux où il est. Alors, c'est beauf, hein, c'est un concept qu'on pourrait presque inventer pour La Belle Époque de Bedos. Nous montre leurs histoires d'amour, on s'en fout un petit peu, il faut bien dire. Et Bedos invente en plus son double de cinéma, joué par Guillaume Canet. Et là aussi, ça donne un film dans le film qui se voudrait amusant, distrayant, un peu décalé. Puis c'est pas du tout le cas, ça ne marche pas. Alors on se dit quand même que pendant ce temps-là, le vieux Bellocchio, le vieux Ken Loach, le presque vieux Guédiguian tournent des films qui nous disent beaucoup plus de choses.
Adult in the Room, tiens, ben encore un pas tout jeune, Costa Gavras, 2015, victoire de Syriza, qui hérite d'une Grèce en faillite, une dette colossale, et l'Europe qui lui impose des mesures d'austérité. Le film donc va suivre son ministre des Finances dans sa tentative de renégocier les échecs. C'est une adaptation des mémoires de l'ancien ministre, donc Yanis Varoufakis, conversation entre adultes dans les coulisses très secrètes de l'Europe. Le film, très sommairement défini, ce pourrait être la crise grecque expliquée au nul, mais très clairement expliquée par Gavras, qui décrit sans la simplifier le dur apprentissage de la politique et des négociations redoutables avec les représentants de l'Europe. Beaucoup de dialogues et de déplacements, comme un peu à la Maison Blanche ou Social Network, tous les deux écrits par le grand Aaron Sorkin, mais moins subtil, moins nuancé chez Gavras. La force du film, bien sûr, ce sont ses acteurs. En tête, il y a Christos Loulis et Varoufakis, des acteurs de la nationalité du personnage qu'ils incarnent, le contraire d'une production internationale où tout le monde parle anglais. Là, c'est un très bon point.
Oui, c'est vrai, mais il est au fond dans la demi-mesure. C'est bizarre, Costa Gavras. On se demande où est le narratif, où est la fiction, comme il se décide bien dans Z. Et le plus bel exemple, d'ailleurs, c'est que ce sont des personnages réels, mais on ne les appelle que par leur prénom. Alors, il faut savoir que derrière Christiane, il y a Lagarde, par exemple. Ou que derrière Michel, il y a Sapin, ce qui est un peu agaçant, parce qu'on se dit, bon, pourquoi ne pas les nommer? Parce que je crois qu'il ne choisit pas, effectivement, entre la fiction et le documentaire qu'il aurait pu faire. Et la seule fiction réelle qu'on voit dans le film est parfaitement ridicule. C'est un ballet, à la fin, où là, tout d'un coup, on est presque chez Jacques Demy, ce qui n'a strictement aucun intérêt.
C'est dommage,
et
c'est
pas de légitimité.
On oublie la scène.
Mais enfin, ouais. Moi, je trouve qu'entre l'électricité et l'essence, et ben, l'hybride Costa ne choisit pas.
Bon, J'ai perdu mon corps. Premier long métrage de Jérémy Clapin d'animation, couvert de prix à la semaine de la critique à Annecy. Grand prix et prix du public à Paris. Naoufel tombe amoureux de Gabriel. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s'échappe d'un labo. Bien décidé à retrouver son corps, s'engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d'embûches et de souvenirs de sa vie jusqu'au terrible accident. Naoufel, la main, Gabriel, tous trois retrouveront d'une façon poétique et inattendue le fil de leur histoire. C'est adapté du roman Happy End de Guillaume Laurent. C'est un voyage.
Happy End. Oui.
C'est un voyage, ce film sensoriel, poétique, mélancolique, où se croisent fantastique et réalisme et aborde des thèmes aussi grands que la solitude, la précarité, l'amour, ou le passage à l'âge adulte de façon à la fois cruelle et candide. Mais c'est surtout un grand film de cinéma. Moi, je n'avais jamais vu autant de cinéma dans un film d'animation, dans ses cadrages subtils, ses mouvements de caméra audacieux, son montage harmonieux et l'utilisation de la musique, une comédie romantique, un film d'action, un thriller, tout cela à la fois et dont on sort, moi, je trouve, secoué de larmes et d'enthousiasme.
Non, je partage votre enthousiasme. Je pense qu'il faut quand même dire aux spectateurs et peut-être aussi aux plus jeunes qui sont habitués des films d'animation, il faut quand même un petit peu s'accrocher parce qu'il y a deux histoires qui s'entremêlent en permanence. Et autant, évidemment, en écrit, Guillaume Laurent, c'était facilement lisible, autant là, sur grand écran, il faut un tout petit peu s'accrocher pour rentrer dans le film. Une fois qu'on y rentre, c'est un merveilleux spectacle.
Et puis, nous danserons. C'est un premier film de Levan Akin, qui est suédois d'origine géorgienne. Là où se déroule justement ce film, l'histoire du jeune Merab qui s'entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de l'ensemble national géorgien avec sa partenaire de danse Mary. Ces danses traditionnelles qui perdurent dans une société à l'idéal hyper viril. Et Merab va tomber amoureux d'un jeune nouveau, son rival et son plus grand désir. En 2013, le réalisateur a assisté à une gay pride en Géorgie dont les participants se sont fait attaquer par des milliers de personnes de l'église orthodoxe. Histoire d'un amour impossible, donc, entre deux garçons qui doivent se cacher de leurs amis, de leur famille, de tout le monde. Très subtilement décrite cette montée du désir, cet événement de l'adolescence qui devrait être une joie et qui devient un calvaire. Ajoutez à cela la discipline de la danse sur les corps contraints, assez remarquablement filmé et des jeunes acteurs très convaincants. Ce qui pourrait se résumer à un film militant est en fait un vrai film de cinéma et toute l'émotion qui va avec.
Pas vu, mais vous donnez très envie. Oui. Mais alors, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait deux programmes en matière de dessin animé qui sont sortis de Paul Grimaud. 10 courts-métrages restaurés, absolument formidables. Décidément, l'animation cette semaine, ça va bien.
On va presque conclure avec un drôle de doc qui s'appelle Vitis Prohibita de Stéphane Ballet. C'est le vin prohibé, Laurent?
Eh ben oui, moi, dans ma jeunesse, figurez-vous, dans les Cévennes, je buvais du Clinton. Non, pas du Clinton, on devrait presque dire du Clinton, d'ailleurs, parce qu'effectivement, ce sont des cépages qui venaient d'Amérique et qui étaient interdits en France parce que on leur trouvait des vertus absolument trop fort pour le cerveau humain. Ces cépages sont à nouveau cultivés en France. Ils sont encore interdits à la commercialisation, mais c'est tout à fait passionnant et amusant d'entendre des viticulteurs parler de ces cépages encore interdits. Vive le Clinton.
Un inédit de Bolognini, Black Journal.
Incroyable ce film, effectivement, qu'on n'avait jamais vu. Alors le titre français, enfin français anglais, est abominable, alors que le titre italien, c'est Grande Bolito, c'est-à-dire la grande lessive. C'est une farce d'une noirceur et d'une horreur sidérante. C'est tout à fait proche de l'univers de Polanski, et c'est avec Sigloupé, Chelly Winters et Max von Sydow en femme.
Il y a... Non !
Mais si, absolument, faut voir ça.
Le joueur d'échecs de Bergman, d'accord.
Faut voir ça. Et il ressort aussi La Viaccia, formidable, de Bolognini, et on a quatre films de Bolognini en DVD aussi dans un beau coffret qui sort. Vraiment, c'est une belle actualité, Bolognini.
Des festivals, Laurent.
Oui, et des festivals, bien entendu. Je dis en aparté quand même un petit peu qu'il y a 365 festivals de cinéma en France chaque année. C'est dire si ici, on ne peut pas parler de tous. Alors, on s'est concentré sur la Haute-Garonne. Oui. Cette fois, il y en a un à Muret. Le Festival du cinéma 2019 du 11 au 17 novembre avec des films, des tas de films et des avant-premières dédiées au cinéma d'auteur, au cinéma d'art et d'essai. Et puis, j'ai trouvé aussi qu'à Toulouse, on parlait d'histoire de cinéma, histoire au pluriel, du 8 au 16 novembre. Il y a des gens comme Aurélien Bory, Serge Bronberg, Alain Damasio, avec Christine Masson. Non, et ben non, voilà, il y a des gens comme ça, et bien qui vont nous présenter des films, nous en parler, nous dire tout le bien qu'ils en pensent, et puis surtout, effectivement, faire de beaux exercices de cinéphilie, et ça, c'est toujours réjouissant.
Alors, des cadeaux pour un cadeau par invité.
Oui, Marcus Rotteux, on va vous offrir un cadeau d'un livre de quelqu'un qu'on aime bien, qui s'appelle Pierre Gras. Goodbye Fassbinder, le cinéma allemand depuis la réunification. C'est aux belles éditions Jacqueline Chambon, et c'est une somme extraordinaire sur ce cinéma dont on vient de beaucoup de parler, et qui est très très bien écrite. Ça
oui.
se lit très très agréablement, très facilement,
très
alors que c'est évidemment érudit. Ouais. Et puis pour vous, Pierre Gras, je pense que vous le connaissez, mais on avait envie aussi de le dire à nos auditeurs, il y a une ressortie, celle de Siegfried Krakauer, de Caligari à Hitler, une histoire psychologique du cinéma allemand, c'est du lourd, c'est du psychanalytique, c'est du marxiste, mais ça marche très très bien sur le beau cinéma allemand des belles années.
Merci voilà, infiniment à tous les deux, merci Marcus Rotteux, merci Pierre Gras, merci à Ophélie Vivier et Eric Oswald, et merci aussi à Ludovic Piétenu,
oui.
à Berlin. Générique de fin en allemand, bien sûr, avec Christian Petzold. Au revoir.
Es ist eine Sendung, die von allen Filmen inspiriert ist. Es gibt Regisseure und Schauspieler. Es gibt Drehbuchautoren und Kameraleute. Die Aufnahmen sind Tonaufnahmen. Sporto Cantes hat die Abspannmusik komponiert. Die Playlist wurde von Muriel Perez zusammengestellt. Mathilde Verferrier kümmerte sich um die Vorbereitung. Es ist eine Sendung von Claire Destacombe. Produziert und moderiert wird sie von Christine Masson und Laurent Delmas. Und ich, Christian Petzold, war dabei.